Bonjour, Joanne.
Bonjour.
Approchez-vous un petit peu de votre micro, soyez pas timide. Joanne Thibodeau, ergothérapeute, retraitée de l'Institut Nazareth et Louis Braille, co-auteur de ce guide d'une cinquantaine de pages très outillant, Vivre au quotidien avec un enfant sourd, aveugle. Je le disais tout à l'heure, Joanne, une condition qui peut être rare, qui demeure méconnue, la surdicécité. Et en même temps, je pense que ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui, ce qui est important, c'est que quand il y a des thérapies, des approches adaptées, ces enfants-là ont la chance de se développer. C'est possible aussi.
Oui, ça, je pense que c'est quelque chose de très important à partager aux parents parce que, comme Cybèle nous disait, quand on a tous ces diagnostics, qu'on frappe le mur, on s'imagine qu'il n'y a plus rien à faire. Mais tous ces enfants-là ont un potentiel. Il s'agit vraiment de mettre les structures, de mettre une façon de travailler avec eux pour les aider à entrer en contact avec leur environnement et leur donner la chance de pouvoir réagir. Oui. Parce que quand tu n'entends pas bien, que tu ne vois pas bien, que tu n'as pas ta mobilité motrice pour faire des choses, comment tu peux être capable de réagir adéquatement à une stimulation? Ça laisse tout le temps supposer que l'enfant, il ne comprend pas, qu'il ne peut rien faire, mais c'est parce qu'on ne lui donne pas la chance de pouvoir interagir avec son environnement.
Et qu'il ne peut pas communiquer. On va penser à ça souvent. Or, c'est faux. Comment l'enfant qui vit avec une surdicécité peut communiquer, interagir avec son entourage?
C'est un gros défi, la communication, mais je pense qu'il faut comprendre que même si on ne parle pas, on communique.
Oui.
Il y a tout le non-verbal, il y a la façon de bouger, dans le regard ou dans le pas-regard, je veux dire, on communique toujours. Mais quand tu es en surdicécité puis que tu as un problème aussi moteur, ben ça prend une approche spéciale. Parce que toute communication, toute interaction avec l'extérieur, c'est souvent perçu pour l'enfant comme étant une agression.
Mm-hmm.
Cybèle le disait tout à l'heure, très bien, c'est des enfants qui ont été hospitalisés, qui ont eu test par-dessus test. Alors, imaginez juste, t'es enfant, tu vois pas bien, t'entends pas bien, tu peux pas bouger, on arrive, on te fait une piqûre, on te dit pas, là, t'as pas le temps d'être averti de cette situation-là.
Juste de changer de place, d'un lieu à l'autre.
Recevoir un biberon, quelqu'un qui te met un biberon dans la bouche quand tu ne l'as pas vu venir, c'est très agressant.
Prendre le bain, se faire plonger dans l'eau.
Dans l'eau, oui. T'as pas eu de... Donc, il y a des phases là, à respecter. On les écrit très bien dans le livre. Mais bon, on peut les passer rapidement. Là.
Mais il y a les phases, et ça, c'est important. Il faut être patient, Cybèle, lorsqu'on est parent d'enfants qui vivent avec une surdicécité, pour passer à travers ces phases-là.
Oui, très patient et persistant parce qu'on ne voit pas les résultats tout de suite. Ça prend beaucoup de temps. On parlait du bain.
Oui.
Tao, c'était quelque chose de complètement atroce pour lui. Il hurlait la majorité du temps. On ne comprenait pas pourquoi de temps en temps c'était le fun, de temps en temps c'était pas le fun. Et puis avec les conseils de l'équipe de surdicécité, on est arrivé à lui faire anticiper qu'il s'en va dans le bain. Puis maintenant, Tao chante sous la douche. Il est très heureux. Alors, ça apporte vraiment une grande amélioration du quotidien. Là,
du bien-être de toute la famille. Vous avez dit quelque chose d'assez important, je trouve, Joanne. C'est qu'il ne voit pas bien, il n'entend pas bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne voit rien et qu'il n'entend pas rien, cet enfant.
C'est très rare, un enfant surdicécité, là, que c'est complet. Souvent, les gens s'imaginent ça par le mot, mais non, ils ont tout le temps un résidu. Donc, c'est important. Évidemment, il peut avoir des appareils auditifs, comme souvent les gens vont dire, ben, elle a des appareils auditifs, elle entend bien. Non, ça redonne pas, ça donne pas un 100% d'audition. Mais on peut les équiper, ces enfants-là, avec des prothèses auditives, avec des lunettes. Mm-hmm. Qui vont corriger une partie, ça ne donne pas une vision parfaite, mais au moins, ça les met en contact dans l'environnement. Parce que quand tu n'es pas t'as pas l'information, tu ne peux pas être en contact avec ton environnement. Mm-hmm. Et...
Oui. Vous avez parlé des phases, il y en a plusieurs. Je pense pas qu'on va avoir le temps de toutes les aborder. Est-ce qu'il y en a une qui peut être plus importante ou peut-être plus fondatrice dans les premières approches d'un parent qui reçoit un diagnostic comme ça?
Bien, je pense qu'il faut que... Vous voulez parler des phases de parents ou l'approche plus de l'enfant parce que là...
Mais par exemple, je pense à quelque chose qui semblait assez important, c'est l'anticipation.
Oui, d'accord. Oui. OK. Bien, je pense que oui, dans l'anticipation, c'est le premier enjeu. N'importe qui, si quelqu'un vous arrive dans le dos puis qui vous fait sursauter, tout le monde a vécu ça, oui. On n'est même plus apte, on est comme fâché, hein? On sent qu'on a été agressé. Oui. Mais imaginez, ces enfants-là sont tout le temps dans cette situation-là. Donc, ça, c'est une chose. Il faut qu'ils anticipent. Il faut leur signaler qu'on veut... Il faut les avertir qu'on va entrer dans leur environnement.
Oui.
Donc, pour anticiper, il faut faire soit un bruit, soit utiliser une lampe de poche pour montrer qu'on est là, pour le mettre en éveil, puis de dire, « Ah, il va se passer quelque chose. » On ne touche pas tout de suite à l'enfant parce que... Ça aussi, c'est une agression. Oui. À moins qu'on nous connaisse, une maman peut le faire parce que souvent... Mm-hmm. Puis là, on s'identifie à l'enfant en utilisant une identification qui sera propre à la nôtre. Si on prend juste l'exemple de maman Cybèle, elle touchait les pieds de l'enfant, puis elle disait « c'est maman ». Donc, moi, j'avais aussi à trouver, ou toute personne, que ce soit grand-papa, grand-maman ou n'importe qui, pour que l'enfant se dise « Ah, bon, ben là, c'est elle qui va intervenir.
Mm-hmm. »
Et là, après ça, on utilise souvent l'objet parce que l'enfant est à un niveau concret. Si je veux jouer avec lui, ben je vais utiliser l'objet. Ou si je veux changer sa couche, je vais lui montrer la couche.
Pour le bain, il y a la débarbouillette qui peut aider.
Oui. Oui. Absolument. Alors là, l'enfant va faire comme... Il ne pourra pas, dans un premier temps, savoir... tout ça. Mais il va finir par comprendre que lorsque je lui présente, comme Cybèle tout à l'heure, mon bébé, il n'aimait pas prendre le bain. Mais là, en lui mettant la débarbouillette ou faire sentir l'odeur ou faire écouter l'eau du bain, bien, l'enfant, il sait que là, maintenant, c'est ça puis qu'il va avoir du plaisir.
Oui, oui. Et que ça va bien se passer, qu'il est en sécurité. Cette notion-là doit être extrêmement importante.
C'est toute la notion qui fait que tu vas créer un lien d'attachement.
Oui.
Parce qu'il faut que l'enfant se sente dans un contexte de sécurité pour évoluer, sinon, c'est la clé.
Tellement de choses, il reste une minute et demie qui aurait été vraiment intéressant d'aborder. Vous avez parlé de jouets. Est-ce que Tao et Dali ont des jouets préférés, Cybèle? Ça fonctionne bien avec eux, ils ont du plaisir et une interaction qui est possible.
Oui, mais ça, c'est vraiment difficile à trouver. Puis d'emblée, quand on rentre au Toys R Us, on ressort en pleurant puis on se dit si ça n'existe pas. Mais il y a des petites choses qui, des fois, sont même pas un jouet à la base. Mais en ce moment, ce que Dali aime vraiment beaucoup, là, ça a comme un manche, ça a un bouton. Quand on pèse dessus... Ça roule, c'est lumineux, ça vibre. Mm. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est le mettre dans sa bouche, puis ça vibre. Alors maintenant, je regarde toutes les choses en fonction de tout ça. Est-ce que c'est en plastique dur, puis ça vibre? Oui, ma fille va l'aimer.
Oui, parce que de stimuler les autres sens, c'est important, Joanne?
C'est très important. Puis aussi, il faut que ces enfants-là s'amusent. Ils doivent avoir du plaisir. C'est la base, c'est là qu'on apprend.
Trouver la porte d'entrée.
Trouver la porte d'entrée, voilà. Puis, il faut fabriquer des jouets. Il faut fabriquer comme le livre. Tous les mamans aiment lire une histoire à leur enfant. Donc, on a fabriqué des livres à partir des intérêts du parent. Parce que le parent, il y en a plein de bonnes idées. Il a juste besoin qu'on l'aide.
Et qu'on les valide aussi.
Qu'on les valide et qu'on les concrétise. Pour que ce soit accessible à leur enfant.
Ouais, souvent, le jouet non plus, il s'achète pas, il s'invente. Il faut garder notre cœur d'enfant. Je me rappelle les premières interventions avec Tao, il hurlait toute l'intervention jusqu'à temps qu'on découvre qu'il aimait ça se faire bardasser dans une couverture.
Oui.
Alors, on chantait les poissons gigotes en bardassant en couverte, puis Tao aimait ça, puis on a essayé tant bien que mal, de lui faire dire encore avec ça. Mais au moins, il pleurait pas, puis c'est pas vraiment un jouet.
Parce que, et ça, je pense que c'est pour tous les enfants, le plaisir, le jeu libre est fondateur de beaucoup d'apprentissage. Joanne Thibodeau, c'est déjà la fin, mais on va guider les gens vers ce guide qui est fort bien fait, vivre au quotidien avec un enfant sourd, aveugle. On le retrouve du côté de l'Institut Raymond Dewar et de l'Institut Nazareth et Louis Braille, où vous avez travaillé pendant des années et où j'espère vous, en fait, j'ai envie de le souligner, vous continuez à vivre là, au sein de ces familles-là et d'avoir un grand effet. Merci beaucoup.
Bienvenue.